Alors, bienvenue à chacun et à chacune pour cette formation sur la confirmation. Nous avons déjà vu dans le cycle 1 et le cycle 2, nous avons déjà vu l'Esprit Saint, qui était-il ? Et nous avons vu le baptême aussi, l'Esprit Saint, qui était-il ? Et comment vivre avec l'Esprit Saint dans la prière ? Maintenant, nous allons voir la confirmation. Nous allons vraiment nous appuyer sur le catéchisme de l'Église catholique. Et puis, dans la foulée de cet enseignement, plus tard, vous aurez un enseignement sur les dons du Saint-Esprit, qui sont ce que vit le baptisé de manière éminente de ce que vit le confirmé. Voilà. Aussi, à titre informatif, il existe un certain nombre de livres existants sur le Saint-Esprit. Je vous invite à lire ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Vous pouvez très bien lire du Père Jacques-Philippe à l'école de l'Esprit-Saint. Et pour ceux qui le désirent, le Père Ranero Comte alla Messa a écrit un livre sur le Veni Creator, qui est un commentaire du Veni Creator, cette prière antique, qui nous parle de l'Esprit-Saint et qui est très bien fait, qui est vraiment très très bien. Voilà, je vous conseille ces deux livres à l'école de l'Esprit-Saint, Jacques-Philippe, qui est plus une aide pour vivre la vie spirituelle, et le Veni Creator. Alors, la confirmation, le sacrement de la confirmation. Ce qui est important, c'est qu'il y a un triptyque dans les sacrements. Il y a aussi des duos dans les sacrements. On a un duo. C'est le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage qui constituent des sacrements d'état de vie. Voilà. On a des sacrements de guérison, un autre duo, le sacrement de réconciliation, la confession, le pardon, et le sacrement des malades, voilà, qu'on a appelé autrefois l'extrême onction, mais qu'on peut recevoir à différents moments. C'est un duo pour la guérison, on va dire, duo pour l'état de vie, la vocation. Et puis on a un triptyque, donc là il y en a quatre, un triptyque, donc 4 plus 3 ça fait 7. Un triptyque, c'est les sacrements de l'initiation. Alors les sacrements de l'initiation constituent le baptême, dans l'ordre traditionnel de l'Église, le baptême, la confirmation et la première communion. C'est bien cet ordre, c'est dans cet ordre qu'est donné les sacrements pour un adulte. Voilà. Et nos frères orthodoxes ont gardé cet ordre-là, puisque les jeunes enfants sont rapidement confirmés. Voilà. Avant de faire leur première communion. Nous, dans l'histoire de l'Église, la communion, la première communion, la première des communions, a été permise récemment par les papes. Et donc, ainsi, les enfants font leur première communion avant la confirmation. Voilà. Donc du coup, une sorte de décalage dans l'ordre s'est produit, et souvent on a ce schéma type dans la tête en se disant « la confirmation c'est l'aboutissement ». Or non, la confirmation précède la première des communions, puisque au baptême nous rentrons dans la vie divine, à la confirmation nous sommes affermis dans cette vie divine, et aussi rendus capables de parler un peu au nom de l'Église, non pas comme un ministre ordonné, mais il y a quelque chose de l'ordre de parler au nom de l'Église, voilà, envoyé. Et la communion est là, et le sacrement de la consommation. On est unis avec l'époux, et il n'y a pas plus grand. Donc c'est le terme du sacrement de l'initiation. Alors aujourd'hui, le sacrement de la confirmation. L'Église nous dit que par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit-Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Donc il y a plusieurs éléments là qui sont dit. Tout d'abord, la confirmation affermit notre lien avec l'Église. Et on va voir que cela est marqué en particulier dans la manière dont nous recevons le sacrement de la réconciliation, de la confirmation avec l'évêque. La deuxième chose, c'est la force spéciale de l'Esprit-Saint, enrichie d'une force spéciale. On va voir cela aussi. Et aussi la capacité à être témoin, obligé ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Alors, ce qui est important, c'est peut-être d'avoir un petit panel déjà dans l'histoire de l'Écriture, vite fait, dans ce qu'on appelle l'économie du salut, le déroulement de l'histoire du salut, de voir en quoi, comment la confirmation s'inscrit dedans, comment elle a été annoncée par le Seigneur dans l'Ancien Testament et réalisée dans le Nouveau Testament. Ce qui est vrai, c'est que dans l'Ancien Testament, nous avons déjà les promesses faites par les prophètes que l'Esprit du Seigneur va reposer sur le Messie. L'Esprit du Seigneur va reposer sur le Messie. Et vous connaissez cette parole du Seigneur dans le livre d'Isaïe au chapitre 11, versets 2 et suivants, où il est dit que l'Esprit du Seigneur reposera sur lui esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais non sur le oui-dire. Là, vous avez la déclinaison des sept dons du Saint-Esprit qui sont donnés au baptême et affermis à la confirmation. Voilà, donc le Seigneur promet cela pour le Messie. Voilà, d'abord pour le Messie. Et pourtant, on va voir que cette plénitude, Jésus la reçoit dès sa conception, il la manifeste au baptême, il la manifeste dans toute sa vie. Et cette plénitude de l'Esprit ne devait pas, nous dit l'Église, rester uniquement pour le Messie. Elle devait être communiquée à tout le peuple messianique. Voilà, elle devait être communiquée à tout le peuple messianique. Et on peut voir déjà cette promesse dans le livre de Joël, au chapitre 1, le chapitre 3, versets 1 à 2. « Après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, et même sur les esclaves, hommes et femmes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Nous avons une prophétie similaire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, versets 25-27. Donc on voit que Dieu veut répandre son Esprit Saint et le donne en plénitude dans le Messie. Et donc forcément, quand le Christ se manifeste, c'est pour aussi les autres. Et de fait, le jour de Pâques, le Seigneur dira qu'il vienne à moi celui qui boive et en son sein jaillira des fleuves d'eau vive. Voilà, il le dit en Jean 7. Et de la même manière, le Christ ressuscité, en Jean 20, va souffler l'Esprit Saint. Va souffler l'Esprit Saint. En Jean 20. Donc on voit, il veut communiquer cette plénitude. Et enfin, le Seigneur, dans le livre des apôtres, dans les Actes des apôtres, au chapitre 2, dit « Vous allez recevoir une force d'en haut ». Voilà. Donc, Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous allez recevoir une force d'en haut ». Donc, on voit que le Seigneur promet cela, il va le faire. Alors, ces choses-là se réalisent effectivement à la Pentecôte. En Actes 2, verset 1 à 4, l'Esprit Saint va descendre sous forme de langue de feu. Et ici, on a un vitrail de la Pentecôte. Donc, on voit, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit qui est donné complètement, qui permet de rendre les apôtres aptes à être plus attachés à l'Esprit, à l'Église, et être rendus aptes à parler en vrai témoin. Voilà. Donc, on a les qualités, voilà, d'une expérience de la confirmation pour eux. Et depuis ce temps, les apôtres communiquèrent aux néophytes, aux jeunes baptisés, par l'imposition des mains, le don de l'Esprit qui porte à son achèvement la grâce du baptême. Si nous regardons par exemple dans le livre des apôtres, on va voir que certains croyaient en Jésus-Christ, mais n'avaient pas encore reçu l'Esprit, il nous est dit. Et Paul dira... On lui dira à Paul, nous ne savions pas qu'il y avait un Esprit Saint. Et ce que feront Paul, ce que fera Paul, ce que fera les apôtres, il imposera les mains. Ils imposeront les mains. Et donc, depuis la tradition antique, l'imposition des mains est le moyen de communiquer le don du Saint-Esprit, le don du sacrement de la confirmation. Voilà. L'Église nous dit, l'imposition des mains est un bon droit reconnu par la tradition catholique comme l'origine du sacrement de la confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte. Voilà. Et très tôt, dans l'Église, rapidement, on a mis en parallèle, pour marquer ce signe du don du Saint-Esprit par l'imposition des mains, on a rajouté rapidement une onction d'huile parfumée, un crème. Voilà, une onction d'huile parfumée à crème. C-H-R-E-M-E, avec un accent circonflexe qui, j'espère, ne disparaîtra pas, contrairement à notre français. Un crème, voilà. En Occident, le nom s'est appelé confirmation, voilà. Et en Orient, on a appelé ça, comme c'est le crème, la chrismation. J'en reparlerai tout à l'heure, mais nous avons un lien avec la fameuse messe chrismale, qui est célébrée pendant la semaine sainte, qui consiste à consacrer les huiles, d'eau en particulier le crème, le saint crème, qui va servir pour la chrismation. Voilà. Donc le crème a été rajouté pour manifester l'expérience de l'Esprit-Saint au signe premier, primitif, qui est l'imposition des mains. Voilà. Alors, il y a deux traditions importantes. En Orient, les prêtres peuvent chrismer les jeunes baptisés et ils le font avec le Saint-Crème que l'évêque a consacré. Voilà, c'est le lien avec l'évêque. J'en parlais tout à l'heure. Et tandis qu'en Occident, généralement, on a réservé à l'évêque la capacité de chrismer, de donner l'onction, de manière à montrer de manière plus forte, plus visible, l'attachement à l'Église. Vous voyez, ce que nous donne la confirmation, un attachement plus fort à l'Église. Alors d'un côté en Orient est manifesté dans le rite où il y a une unité des sacrements, l'unité des sacrements d'initiation, voilà. Et de l'autre côté est montré le lien ecclésial de manière plus forte en Occident par le lien direct avec l'évêque. Voilà. C'est en gros deux charismes différents mais qui disent la même réalité. Voilà. Alors, ce qui est important dans le sacrement de confirmation, vous avez vu, c'est comme par exemple le sacrement du baptême ou le sacrement de l'ordination, c'est quelque chose qu'on peut recevoir qu'une seule fois, alors qu'on peut communier plusieurs fois, on peut se confesser plusieurs fois, on peut se marier plusieurs fois quand on est veuf ou veuve, et de la même manière, on peut recevoir plusieurs fois le sacrement des malades. C'est-à-dire que nous avons des sacrements qui peuvent être réitérés, qui sont pour un moment, même si ce moment, par exemple, dans la vie du mariage, est durable. Ceci dit, ce n'est pas éternel, on n'est pas marié au ciel. Donc on voit, c'est des moments plus ou moins longs qui peuvent être réitérés. D'accord ? Tandis que pour les sacrements de la confirmation, du baptême ou de l'ordre, c'est des sacrements pour toujours éternels. Et donc on appelle cela un sacrement à caractère. Une fois qu'on est confirmé, baptisé, ordonné, on ne peut pas être débaptisé, déconfirmé, désordonné. C'est éternel. Donc le sacrement possède en lui-même un pouvoir de reviviscence. Qu'est-ce que c'est ? C'est une capacité à, j'allais dire, pas s'auto-générer, mais à reproduire la grâce. Parce qu'il est toujours là. Il y a une source qui est posée sur l'âme par le sacrement reçu, qui a marqué un sceau, S-C-E-A-U. Voilà, on appelle autrement cela un caractère. Il y a une trace indélébile sur l'âme qui est faite et qui est durable. Voilà, ça change pour toujours. Voilà. Ça, c'est important. Donc, c'est un sceau spirituel. Et du coup, l'Église nous dit la confirmation, dans la confirmation et dans l'ordination, est le signe d'une consécration. Par la confirmation, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont loin, participent davantage à la mission de Jésus-Christ et à la plénitude de l'Esprit-Saint. Donc il y a une forme de consécration, de fait, qui est faite à la confirmation. On ne devient pas laïc consacré, religieux, prêtre, mais quelque part, on est plus donné à Dieu parce qu'on a été loin. Voilà, on a été loin. Ce qui est important dans l'Écriture, cette fameuse marque, ce sceau, nous dit l'Église, est le symbole de la personne. Voilà, on retrouve cela dans la Genèse. Le sceau est le symbole de la personne. Vous pourrez aller voir Genèse 38, chapitre 38, verset 18. De la même manière, le sceau est symbole de l'autorité. Genèse 41, verset 42. Et de la même manière, le sceau est signe de la propriété. On met un sceau quand on est propriétaire de tel ou tel objet. Voilà, on retrouve cela dans le Deutéronome au chapitre 32, verset 34. Donc, celui qui est marqué du sceau par la confirmation, en l'occurrence de ce que nous parlons aujourd'hui, il est marqué d'une autorité de Dieu. Il est marqué comme propriété de Dieu. Et la personne de Dieu est présente en lui. Voilà. L'Esprit-Saint a fait sa demeure en nous. Voilà. C'est ce que dira Paul, hein. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit-Saint ? Donc voilà pour l'onction qui est marquée. Donc je parlais de cette célébration de ce signe de l'onction. Donc elle a lieu pendant la consécration, c'est la consécration du sacrême qui fait le sacrême, et ça a lieu durant la messe chrismale. Voilà, je rappelle que cette onction du sacrême, on la donne à trois moments dans la vie de l'Église. On la donne au baptême pour les catholiques. On fait une onction du sacrême sur le front, mais on ne dit pas les paroles qui vont avec, parce qu'on va voir, ces paroles sont dites le jour de la confirmation, sinon à ce moment-là, on confirme l'enfant. Mais on a là un reliquat de ce qu'a été le lien baptême-confirmation qui est resté dans le rite. De la même manière, on met l'onction du sacrême sur le front du confirmé en disant les paroles et en ayant avant imposé les mains. Donc là, on est dans le rite vraiment efficace de la confirmation. Et enfin, on met le sacrême sur les mains du prêtre. Dans l'ordination, le sacrême est mis dans les mains du prêtre. Voilà. Donc on voit, là, c'est les lieux où nous utilisons le sacrême. Le rite catholique occidental, voilà ce que dit l'évêque. Ou, à la rigueur, le prêtre qui a été mandaté au nom de l'évêque pour confirmer. Une fois imposé les mains, en général c'est l'évêque qui impose les mains avec tous les prêtres, mais c'est l'évêque qui dit la parole avec l'imposition. Et voilà ce qu'il dit. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'Esprit de la crainte de Dieu par le Christ notre Seigneur. Voilà ce qui est dit. Et donc on voit que l'évêque, en imposant les mains, demande une grâce particulière de l'Esprit-Saint et les dons du Saint-Esprit. Hein. Vous avez la déclinaison, esprit de sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, affection filiale, crainte. Voilà. Donc on demande cela pour le confirmer. Et au moment après l'onction du sacrême sur le front, voilà ce que dit l'évêque. Ou le prêtre mandaté au nom de l'évêque, soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Nous savons que par excellence, le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Et là, il y a un don qui est fait de manière particulière. Voilà. Tandis que en Orient, le rite est un petit peu différent. Et le prêtre va dire sceau du don de l'Esprit Saint. Voilà. Sceau du don de l'Esprit Saint. Chez nous, nous dirons sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et puis enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention lors de présence, de célébration, de la confirmation, mais il y a aussi un baiser de paix entre l'évêque et le jeune confirmé, un baiser de paix qui achève le rite du sacrement, qui signifie et manifeste, nous dit l'Église, la communion ecclésiale avec l'évêque et avec tous les fidèles. Voilà. On va bosser pour l'Église avec l'évêque. Voilà. On est envoyé. Et donc, voilà, il y a une participation et l'évêque nous reçoit, nous fait une accolade, un baiser de paix. On voit le lien, hein, force du Saint-Esprit, onction et puis communion ecclésiale. Donc il y a un renforcement. Onction d'une huile consacrée par l'évêque à la messe chrismale. On voit tout ce sens ecclésial. Alors il est bon maintenant, donc on a vu un petit peu que Dieu promettait l'Esprit Saint et que dans le Messie il y a cette plénitude, que le Messie va la donner. Voilà. Résurrection, Pentecôte, que les apôtres eux-mêmes vont communiquer ce don de la confirmation par l'imposition des mains, et que dans le temps va s'adjoindre au rite de l'imposition des mains l'onction. Et voilà, c'est déployé en Occident une tradition où la confirmation se faisait après la première communion. En Orient, elle est restée dans l'ordre traditionnel. Il y a deux formules de remise de l'onction, différentes selon l'Occident et l'Orient, voilà, pour dire les choses, et que ça affermit la capacité à être témoin, affermie dans l'Esprit Saint, pouvoir de grâce et aussi communion ecclésiale. Nous allons voir maintenant plus précisément les effets du sacrement de confirmation. Ce qui est important de dire, c'est que c'est une effusion spéciale de l'Esprit Saint, comme celle qui fut accordée jadis aux apôtres à la Pentecôte. Alors c'est important de dire cela, et encore il faut l'expliquer. Dans les actes des apôtres, l'Esprit Saint, il tombe sur les Juifs sans être encore baptisé. Donc on peut avoir ce qu'on appelle, dans le langage par exemple du renouveau charismatique, faire l'expérience d'une effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire une grâce forte de l'Esprit Saint. Voilà, une grâce forte de l'Esprit Saint qui réactive les dons qu'on a reçus quelque part, qui dépoussière ce qu'on avait, qui donne goût à la parole, à la mission, à l'amour de Jésus, à l'amour de l'Église, à l'amour de Marie. C'est une effusion du Saint-Esprit. Mais cette effusion, elle est ponctuelle, elle est pour un temps, elle peut avoir des effets décisifs dans la vie, mais c'est un moment de conversion que nous pouvons revivre, si Dieu le veut, plusieurs fois. Ce qui est différent de la confirmation, qui est aussi une effusion de l'Esprit-Saint, mais à dimension durable, à dimension complètement transformable et durable, parce que c'est un caractère et c'est un sacrement. Voyez. Si, par exemple, je vivais d'effusion d'Esprit Saint en effusion d'Esprit Saint par le Seigneur, de manière charismatique, toujours est-il, il manquerait à un moment donné une stabilité dans la grâce. Il manquerait que les choses ne seraient pas complètement inscrites en moi de manière durable et pleine. Et que ça, c'est donné par le sacrement. Et c'est la même chose pour le sacrement du baptême. Il y a quelque chose qui est stabilisé, qu'on est incorporé, et même dans une grâce charismatique, on n'est pas incorporé à l'Église. À un moment donné, il faut dire un oui soi-même et être accueilli par l'Église. Et on a ça à la fois dans le baptême et dans la confirmation. Donc on voit, c'est stable, durable, ça engage notre liberté définitivement. Et donc là, on voit, c'est plus solide. C'est complémentaire, mais c'est plus solide. Voilà. Je dirais que c'est une grâce un peu plus hiérarchique donnée par l'Église dans sa constitution, dans son être. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait cette grâce-là de l'Église? Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire « Abba Père ». Voilà, Romains 8, 15. On peut être capable d'approfondir notre lien filial avec Dieu, Abba Père, par la confirmation. Elle nous unit plus fermement avec le Christ. Voilà. On le connaît mieux, on est plus unis. Ce qu'on va faire, c'est au nom du Christ. Ce qu'on va faire, c'est le Christ en nous de manière plus forte. Elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint, les fameux 7 dons de l'Esprit Saint, elle les augmente en nous. Il y a une plénitude là, qui est faite. Je dis bien, il y a une plénitude, parce qu'après, il n'y aura pas de nouveaux dons du Saint-Esprit. Il pourra y avoir des effusions d'Esprit Saint sauvage qui réactivent le don, mais la plénitude est donnée. Donc voilà, ça, j'allais dire, c'est version maximale. Voilà. Elle rend notre lien avec l'Église plus parfaite. Elle rend notre lien avec l'Église plus parfaite. Et encore, elle nous accorde une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Pour confesser le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. Voilà ce que disait un père de l'Église, saint Ambroise. Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe spirituel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de piété, l'esprit de la sainte crainte, et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t'a marqué de son signe, le Christ Seigneur t'a confirmé, il a mis en ton cœur le gage de l'Esprit. Alors la question c'est, rappelle-toi et garde. Voilà ce qu'a dit saint Ambroise en particulier. Et oui, il faut se souvenir qu'on est confirmé. Il faut se le rappeler, parce que des fois on oublie. On oublie qu'on a un kit en nous qui peut nous aider à vivre la vie chrétienne dans tous les moments, que ce soit le culte à Dieu, que ce soit la vie de charité, le devoir d'État et aussi la vie apostolique, l'annonce de Dieu. Quand par exemple, des frères et sœurs chrétiens nous disent « Oh mais moi j'en serais incapable d'annoncer le Seigneur, etc. » Mais en réalité, la vraie question c'est « Est-ce que vous avez conscience d'être confirmé ? Est-ce que vous avez conscience que vous avez reçu le don de force, de conseil, d'intelligence qui peut agir au-delà de vous-même et que le Seigneur en acte 1, 8 dit « Vous allez recevoir une force d'en haut » et que les apôtres avant, ils étaient tétanisés dans une maison. Et quand le Christ est ressuscité, il les prépare pour aller annoncer. Donc en réalité, celui qui croit par lui-même être un incapable, en réalité c'est quelqu'un, non pas qui est incapable aux yeux de Dieu, mais qui n'a pas confiance au don qu'il a reçu, qui peut avoir oublié ou ne pas prendre conscience que la confirmation le rend capable. La confirmation nous rend capable de choses que, humainement, nous sommes incapables. Voilà, elle nous rend forts. Il faut en avoir confiance de cela, avoir conscience et avoir confiance en cela. Voilà, c'est important. Et donc, il y a un vrai enjeu. On voit bien aujourd'hui que l'affaissement missionnaire de l'Église est dû à l'affaissement de conscience de ce qu'est la confirmation. On vit la confirmation comme une étape d'adhésion. C'est-à-dire, je vais être confirmé, voilà, j'ai fait mon kit, j'ai fait mes étapes comme j'ai passé mon BEP et mon bac. J'ai été confirmé. Mais en réalité, la confirmation, c'est un départ qui nous donne un kit spirituel pour être missionnaire. Pour être missionnaire. Et donc en réalité, la confirmation, si le jour de la confirmation, on peut recevoir une plénitude, une paix, une intégration ecclésiale, un sentiment de renouveau, ce qui est vrai, en réalité, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, parce que ça va agir. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est l'après-confirmation. Et là encore, que la grâce ne reste pas sous le boisseau. Et là, on peut entendre ce que dit Ambroise, « Rappelle-toi et garde. Rappelle-toi et garde. » Sous-entendu, tous les jours, tu te souviendras que tu es confirmé, que tu es envoyé en mission et que tu as ce qu'il faut pour faire ce que Dieu veut de toi. Ça, c'est important. Donc il est bon que le confirmé invoque souvent l'Esprit Saint, se rappelle qu'il a l'Esprit Saint en lui, qui peut le conseiller, le fortifier, lui montrer ce qu'il doit craindre, l'aider à prier, parce qu'il a reçu ces dons-là. Ça, c'est important. Voilà ce que dit l'Église, qui me semble très beau. Le confirmé reçoit la puissance de confesser la foi du Christ publiquement. Et comme en vertu d'une charge, en latin, quasi ex officio. On a dit quasi ex officio parce que si on avait dit officio, ça aurait voulu dire que les gens sont prêtres, parce qu'ils ont une charge apostolique. Non. Mais c'est quasi ex officio parce que malgré tout, les confirmés, effectivement, vont parler au nom de l'Église de manière plus forte parce qu'ils sont envoyés par l'évêque. ils sont envoyés par l'évêque. Ce n'est pas un ministère, mais c'est quand même un apostolat envoyé par l'évêque et quelque part par l'Esprit Saint, parce que confirmé. Donc là, il y a véritablement une mission qui est donnée de professer publiquement. Donc on est rendu capable, soit dans l'agir, soit dans la parole, de le faire. Voilà. Qui peut recevoir le sacrement de la confirmation? Alors forcément, il faut être baptisé pour recevoir le sacrement de la confirmation. Ne peut pas recevoir le sacrement de la confirmation quelqu'un qui n'est pas baptisé. Parce que le sacrement de confirmation va déployer le baptême. Il ne peut pas déployer sur du vent. Il déploie sur le baptême. S'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de confirmation possible. Par contre, ce qui est important, c'est ce que nous dit, et on le cite rarement, c'est le droit canonique. Voilà, les droits et les devoirs de chacun d'entre nous qui nous aident à bien vivre le sens de notre mission dans l'Église. Et voilà ce que dit le droit canonique sur la confirmation. Les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun. C'est-à-dire que ce n'est pas facultatif. Si on prend au sérieux sa vocation, c'est obligatoire. Voilà. C'est obligatoire de recevoir la confirmation. Et c'est tellement important que l'Église nous dit, en danger de mort, on doit cependant confirmer les enfants même qui n'ont pas encore atteint l'âge de discrétion. Normalement, l'Église invite à ce qu'on ait l'âge de discrétion pour être confirmé, c'est-à-dire un âge d'une certaine forme de maturité. Et la maturité spirituelle n'est pas la maturité intellectuelle. Saint Thomas d'Aquin disait « L'âge du corps ne constitue pas un préjudice pour l'âme. Ainsi, même dans l'enfance, l'homme peut recevoir la perfection de l'âge spirituel dont parle le livre de la sagesse. » Et dans le livre de la sagesse, voilà ce qu'il dit. « La vieillesse honorable n'est pas celle qui donne de longs jours. Elle ne se mesure pas au nombre des années. C'est ainsi que de nombreux enfants, grâce à la force du Saint-Esprit qu'ils avaient reçue, ont lutté courageusement et jusqu'au sang pour le Christ. » On peut être mature spirituellement beaucoup plus rapidement que physiquement. Voilà. Donc il y a un âge de la discrétion qui est bon, où on sent que la personne est prête pour recevoir la confirmation. Vous voyez, d'accord ? Toujours est-il, en danger de mort, on écourte cela et on confirme tout de suite. Donc on voit que c'est pas une option, la confirmation, c'est un sacrement à part entière qui fait partie de la plénitude de la vie chrétienne. Donc il le faut. En gros, on espère que tout homme est baptisé et que tout homme soit aussi confirmé. Voilà. Donc, les premiers missionnaires de la confirmation, c'est ceux qui viennent d'être confirmés, qui doivent parler aux autres. J'ai été confirmé, ben, sois confirmé. C'est vraiment important, ça change ma vie, le Saint-Esprit m'aide. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est comment on reçoit le sacrement de la confirmation. Comme tout sacrement, pour recevoir la confirmation, nous dit l'Église, il faut être en état de grâce. Et si nécessaire, nous dit l'Église, il convient de recourir au sacrement de pénitence pour être purifié en vue du don du Saint-Esprit. Une prière plus intense doit préparer à recevoir avec docilité et disponibilité la force et les grâces du Saint-Esprit. Voyez, si nos frères et sœurs qui vont être confirmés, pour la grande majorité, nous en avons beaucoup sur notre paroisse, rendant grâce à Dieu, beaucoup vont être confirmés à la Pentecôte. Ils font la neuvaine que nous faisons, la neuvaine au Saint-Esprit, au Veni Creator. Voilà. Et c'est très bien. Et en même temps, ils s'y préparent vraiment, des fois avec une retraite, et même en se préparant, en se confessant, pour recevoir dans leur âme bien purifiée, bien belle, le don de Dieu, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Voyez. On prend au sérieux cette, quelque part, cette amplification de notre identité. Qui est ministre de la confirmation? Le ministre ordinaire de la confirmation pour les chrétiens, c'est l'évêque. Voilà, c'est l'évêque. Et je vous ai dit, en Orient, le prêtre le fait généralement, mais il utilise le Saint-Crème qui a été consacré par l'évêque, donc voilà le lien. Et en Occident, on laisse à l'évêque ce privilège pour montrer l'attachement ecclésial. Mais il est vrai que l'évêque peut mandater tel ou tel prêtre pour confirmer. Et il est important de le dire, comme vous voyez, l'Église permet une sorte de dérogation pour le bien des fidèles, pour le salut, comme elle permet d'être confirmée très tôt en cas de danger de mort. De la même manière, un chrétien qui est en danger de mort, tout prêtre peut lui donner la confirmation. Voilà. Même non mandaté explicitement, si quelqu'un va mourir, on peut le confirmer. Donc il y a un vrai enjeu. Donc voilà pour ce don. Donc je pense que pour ceux qui sont confirmés, l'importance d'entendre l'enseignement de la confirmation, c'est prendre conscience de plusieurs choses. Que nous avons reçu tout le kit pour vivre à fond notre vie chrétienne. Que ça soit dans le culte, il ne me manque rien, j'ai été affermi dans la vie filiale, nous dit le catéchisme, qu'il ne me manque rien pour être conseillé, guidé par le Saint-Esprit, par les dons du Saint-Esprit, qu'il ne me manque rien pour être un témoin, qu'il ne me manque rien dans l'apostolat, c'est pas réservé à une catégorie d'élite, le savoir-faire viendra, mais la force spirituelle est déjà donnée. Elle est à se déployer. Donc l'enjeu, c'est le déploiement. Et qu'il ne me manque rien dans mon attachement à l'Église. Et donc l'enjeu, c'est de faire fructifier tout ça. Vie de prière dans la grâce de la confirmation, vie de témoin dans la cohérent dans la grâce de la confirmation, vie de prophète dans la grâce de la confirmation, et amour ecclésial dans la grâce de la confirmation, puisque c'est donné. Voilà. Ça, c'est une prise de conscience. Pour les futurs confirmés, c'est de se préparer à être missionnaire. À travers cela, c'est de se préparer à être missionnaire dans tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire demander au Saint-Esprit un éclairage sur sa vie de famille, sa vie personnelle, sa vie de travail, et aussi sa vie d'annonce de la foi, comment le Saint-Esprit veut m'utiliser pour participer en lien avec l'évêque à la mission de l'Église. Voilà. Donc la confirmation pour les futurs confirmés, c'est un départ. C'est un départ. Et pour nous tous, futurs confirmés ou confirmés, l'enjeu, c'est d'aider chaque frère chrétien à prendre conscience de la nécessité d'être confirmé. D'où l'importance aujourd'hui de parler, de faire des annonces, de rencontrer les gens. Est-ce que tu as été confirmé? Va voir tel prêtre, il pourrait être confirmé, etc. T'en as besoin, c'est essentiel. De dire avec vos mots pourquoi c'est essentiel. Voilà. Alors, c'est un sacrement, c'est nécessaire, etc. Et aussi, d'éveiller le peuple de Dieu avec les prêtres, d'éveiller le peuple de Dieu que le peuple de Dieu a reçu la capacité à annoncer Dieu. Parce qu'il est confirmé. Ouais. Parce qu'il est confirmé. Je pense que la nouvelle évangélisation se fera dans la mesure, pour une part, dans la mesure où nous prenons conscience des dons du Saint-Esprit qui nous sont faits. Si nous en prenons vraiment conscience, et si nous vivons, n'éteignez pas le feu de l'Esprit-Saint, dit saint Paul. Voilà, laissez-vous guider par l'Esprit, si l'Esprit est votre vie. Donc si nous prenons conscience de cela, effectivement, nous serons missionnaires. Amen.